Chapitre 18. Laurel n'a pas revu Paul depuis l'enterrement d'Ellie, qu'ils avaient passé debout l'un à côté de l'autre. Il n'avait pas invité Bonnie, et n'avait même pas demandé s'il pouvait le faire. Paul est un homme bien, en tout point. Il l'avait soutenu quand ses jambes s'étaient dérobées au moment où le cercueil était apparu sur la chanson de Keane, « Somewhere Only We Know ». Après la cérémonie, ils étaient tous allés chez sa mère, et il lui avait préparé un thé. Il avait été la chercher quand elle s'était isolée dans le jardin, et avait réussi à la convaincre de rentrer dans la maison en lui promettant un grand verre de Baileys, son alcool préféré. Quand tout le monde était parti, ils s'étaient assis l'un à côté de l'autre en faisant tourner les glaçons dans leurs verres, en se faisant rire, et les sentiments de Laurel s'étaient désarticulés, détournés, puis transformés en quelque chose de lumineux et sombre à la fois, de doré et gris. Il n'avait pas regardé son téléphone, il n'avait pas prévenu Bonnie qu'il serait en retard. Ils avaient quitté la maison de sa mère vers 22 heures. En titubant légèrement jusqu'au taxi qui passait dans la rue. Elle l'avait laissé la prendre dans ses bras longuement et avait posé sa tête sur sa poitrine, inspirant ce parfum familier et rassurant, sentant la douceur de sa vieille chemise Jermyn Street contre sa joue, et elle avait failli tourner le visage vers lui pour l'embrasser. Elle s'était réveillée le lendemain avec le sentiment que sa vie venait de prendre un tour complètement inédit. Elle ne lui avait pas parlé depuis ce jour. Mais elle sait maintenant que toute ambiguïté a disparu. Elle a fait peau neuve et peut le regarder en face. En rentrant de chez Anna, elle l'appelle.
« Bonjour, Laurel. »
la salue-t-il chaleureusement. Paul est toujours chaleureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Laurel s'est mise à le détester après la disparition d'Ellie. Cette façon de sourire avec tant de sincérité à la police, aux journalistes et aux voisins fouineurs. Cette façon de dire au revoir aux gens en serrant leurs mains entre ses doigts chauds, en les regardant droit dans les yeux, en leur demandant s'ils allaient bien. En minimisant les problèmes de sa famille et en essayant, toujours, de faire en sorte que tout le monde se sente mieux en permanence. Pendant ce temps, elle s'imaginait poser doucement ses mains autour de la gorge tendre de son mari et resserrer de plus en plus son étreinte jusqu'à ce qu'il meure. Mais aujourd'hui, son ton enjoué est en accord avec son propre état d'esprit. Elle peut enfin l'apprécier à nouveau. L'adorable Paul Mac, un homme si bon.
« Comment vas-tu ? »
« Je vais bien, merci, » répond-elle. « Et toi ?»«
Oh, tu sais bien. »
En effet. Je me disais, puisque c'est mon anniversaire et celui d'Anna la semaine prochaine, on pourrait peut-être faire quelque chose tous ensemble, non ? Anna était venue au monde 2 minutes après minuit, le jour du 27e anniversaire de Laurel. L'une des plaisanteries familiales consistait à lui répéter qu'elle avait toujours voulu détourner l'attention des autres.
« Comment ça, ensemble ? Toi, moi et les enfants ?»«
Oui, avec les enfants. » Et les compagnes et compagnons, si tu veux.
« Oui !»
s'écrie-t-il avec la voix d'un petit garçon à qui on vient d'offrir un vélo.
« C'est une super idée. Mercredi, c'est ça ?»«
Oui, mais je ne lui en ai pas encore parlé. Elle ne sera peut-être pas disponible. Je me disais qu'après cette année, après avoir retrouvé Ellie, lui avoir dit au revoir... Enfin, nous sommes une famille brisée depuis si longtemps. Peut-être que maintenant, on pourrait... »«
Se retrouver, »
conclut-il.
C'est une idée merveilleuse. Je suis partant. Je vais en parler à Bonnie.
Attends que j'en parle aux enfants. Ils sont tellement occupés, ça ne va peut-être pas se faire. Je croise les doigts.
Tu as raison. Merci, Laurel.
De rien.
Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas ?
Impossible.
Tu m'as beaucoup manqué.
Toi aussi, tu m'as manqué, Paul. Et...
Oui.
Elle s'interrompt un moment. Avale sa salive et trouve la force d'aller chercher au fond d'elle les mots qu'elle n'aurait jamais pensé lui dire. « Je suis désolée. »«
Mais pourquoi donc ?»«
Tu le sais bien, ne fais pas semblant. Je me suis comportée comme une garce. »«
Bien sûr que non, Laurel. Je ne t'ai jamais considérée comme ça. »«
J'étais encore pire que ça. »«
Tu t'es comportée comme une mère, Laurel. C'est tout. »«
D'autres mères perdent un enfant sans pour autant perdre leur mari. »«
Tu ne m'as pas perdue. Je suis toujours là. Et je serai toujours là pour toi. »
Mais pas seulement pour moi. Il soupire.
Pour ce qui compte, si. En tant que père de tes enfants, en tant qu'ami, pour ce que nous avons vécu ensemble, parce que je t'aime et que je tiens à toi. Je n'ai pas besoin d'être mariée avec toi pour ça. Notre lien est bien plus fort qu'un mariage. Il est éternel.
Merci, Paul. Merci, conclut-elle avec gêne. Elle raccroche et tient le téléphone entre ses mains tendrement. Pendant un moment, elle regarde droit devant elle, pénétrée d'un sentiment de paix intérieure qu'elle ne pensait plus jamais pouvoir ressentir. Anna n'accueille pas la proposition de sa mère avec beaucoup d'enthousiasme. Comment ça, tous ensemble? Toi, moi, ton père, Jake, Bonnie et Blue. Oh là là, marmonne-t-elle. Laurel insiste. Elle savait bien qu'Anna ne serait pas facile à convaincre. Comme tu l'as dit l'autre jour, le moment est venu d'aller de l'avant. Nous sommes en train de penser nos plaies, et c'est une étape importante de ce nouveau départ. Pour toi, peut-être. Mais maman, tu n'as jamais rencontré Bonnie. Ça va être vraiment bizarre. Pas du tout. Ton père et moi ferons en sorte que ça ne le soit pas. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas utilisé l'expression « ton père et moi » ? Nous sommes tous des adultes maintenant. Nous n'avons plus d'excuses. Tu vas avoir 28 ans. Je suis presque à la retraite. Nous avons enterré Ellie. Ton père a une compagne qu'il aime. Je dois accepter ça et l'accueillir au sein de notre famille. C'est la même chose pour Jake et Blue. Et pour toi aussi, bien sûr. Pour moi ? Oui. Toi et la personne qui t'a envoyé ces magnifiques fleurs. Un silence tendu s'installe. Quelles fleurs ? Le bouquet qui est sur la table de ta cuisine. Il n'y a pas de bouquet. Ah, très bien. Alors le bouquet imaginaire avec des roses imaginaires dedans. Celui-là. Ce n'est pas un bouquet, réplique Anna avec agacement. C'est juste quelques fleurs que j'ai achetées l'autre jour. D'accord, abdique Laurel avec désinvolture. J'ai dû me tromper. Désolée. Est-ce que tu pourrais arrêter de m'inventer un copain, s'il te plaît? Je n'en ai pas, tu comprends? Oui, d'accord. Et je n'aime pas du tout l'idée de ton grand repas de famille. C'est trop bizarre. Tu es libre? Anna réfléchit un moment avant de répondre. Non. Vraiment? Pas le jour de mon anniversaire. De notre anniversaire. Mais je peux m'arranger un autre jour de la semaine. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire, alors? Je vais boire un verre avec mes collègues. Rien de spécial. Laurel ferme les yeux. Elle sait que sa fille lui ment. Le mystérieux T a sans doute prévu de l'emmener dans un endroit particulier. Mais elle se garde bien de le dire. Tu serais disponible vendredi? Oui, si tu veux. Mais si c'est un désastre, je te préviens. Je t'en voudrais pour le restant de mes jours. Laurel sourit. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Laurel propose à Floyd de le voir le jeudi soir. Cette fois-ci, elle n'avait pas vraiment eu le temps de se poser de questions. 30 minutes après avoir quitté sa maison, Floyd lui avait écrit. « C'était le meilleur rendez-vous de ma vie. Poppy t'adore. Quand est-ce que je peux te revoir ? Demain ?» Elle l'avait reçu quand le métro était sorti du tunnel dans une explosion de lumière à East Finchley. Elle s'était empêchée de rire toute seule. « Peut-être, sauf si... » Smiley. Elle lui avait proposé de venir dîner chez elle. Il adorerait et allait demander à SJ de garder Poppy. C'est pour ça qu'elle fait actuellement les courses, alarmée et exaltée par l'immensité du choix qui s'offre à elle. Cela fait si longtemps qu'elle achète des aliments sans réfléchir, simplement parce qu'il faut se nourrir. Elle mange toujours les mêmes repas qu'elle prépare avec les mêmes ingrédients rangés dans les mêmes rayons. Elle fait plus ou moins attention au nombre de calories par repas. 300 pour le petit déjeuner, 400 pour le déjeuner et 300 pour le dîner, ce qui lui permet de se faire plaisir avec une barre chocolatée ou des biscuits au travail et 2 verres de vin le soir. Pour elle, la nourriture se résume à ça. Des calories. Elle a arrêté de cuisiner pour Paul et les enfants le jour où Ellie a disparu. Ils avaient progressivement vidé le réfrigérateur, puis le congélateur, jusqu'à ce que Paul et Anna aillent au supermarché pour remplir à ras-bord leur chariot de produits de base. Des pâtes, des conserves de poisson, des saucisses, de la viande surgelée. Et Paul avait pris le relais pour la préparation des repas. Grâce à lui, et malgré ses piètres qualités de cuisinier, son absence de goût et son incapacité à préparer quoi que ce soit d'équilibré, il y avait de nouveau eu quelque chose à manger dans leur maison. Les Macs n'avaient pas cessé de s'alimenter. Personne n'était devenu rachitique ou n'était mort de malnutrition. Et c'était la seule chose qui comptait. Mais ce soir, Laurel doit cuisiner pour un homme. Un homme avec qui elle a couché, ce qu'elle espère refaire très vite, et qui emmène sa fille dans un restaurant érythréen depuis qu'elle est bébé. Laurel est complètement dépassée. Elle a imprimé la recette du jambalaya du chef Jamie Oliver. Du riz, ça ne doit pas être sorcier. Elle met dans son poignet les poivrons, les oignons, le poulet et le chorizo pour le plat principal, mais ce sont les autres éléments qui lui posent un problème. Les amuse-bouches, l'apéritif, le dessert, le vin. Elle ne sait pas quoi faire. Du tout. Elle attrape des chips étranges au pain pita et aux lentilles, puis ajoute un paquet de chips de pommes de terre salées au cas où. Des pots de tarama, de houmous, de tzatziki, qu'elle repose quand elle se rend compte que ça ne s'accorde pas avec son plat principal. Qu'est-ce qui irait bien avec un repas américain? Qu'est-ce qu'on grignote avant le dîner à la Nouvelle-Orléans? Par dépit, elle choisit un ensemble de sauces Tex-Mex que l'on s'attendrait plus à trouver dans une fête étudiante. Elle décide d'assurer ses arrières pour le dessert. Pour ses racines américaines, elle choisit un cheesecake new-yorkais. Et pour ses penchants anglophiles, un gâteau au toffee. Et s'il n'a plus faim pour le dessert? Et s'il n'aime pas les gâteaux? Mais qui n'aime pas les gâteaux? Elle opte aussi pour des after-eight, s'imaginant une conversation du type « Tu n'es pas vraiment anglais tant que tu n'as pas mangé d'after-eight. » Va payer à la caisse et range ses courses dans son coffre avec soulagement. Une nouvelle épreuve l'attend à l'appartement, qui est pourtant dans un état correct, car Laurel n'est ni désordonnée ni maniaque. En général, il lui faut une dizaine de minutes avec un aspirateur et un sac poubelle pour le rendre présentable. Mais elle s'inquiète du manque de personnalité du lieu. C'est un appartement élégant, mais sans âme. Il est neuf, propre, avec un plafond bas et des petites fenêtres, mais il n'a aucun signe distinctif. Les enfants ont pris la plupart des affaires de l'ancienne maison. Le reste, elle l'a donné. Elle n'a emporté que le strict minimum, choix qu'elle regrette amèrement en cet instant. C'était un peu comme si elle avait pensé vivre ici seulement un court moment, comme si elle allait s'évaporer progressivement, jusqu'à ce que toutes ses affaires aient disparu. Elle se douche, se rase, se ponce et s'épile. Elle cuisine en pyjama pour ne pas salir sa tenue, et retrouve le plaisir de découper, peser, mesurer, goûter, vérifier, remuer, comme avant. Tous les jours, elle cuisinait des plats intéressants, goûteux et sains. Parfois même deux fois par jour. Elle le faisait pour sa famille, pour leur montrer qu'elle les aimait, pour les garder en bonne santé, pour les rendre plus forts. Mais sa fille avait disparu, puis lui était revenue en un petit ados. Le corps que Laurel avait passé presque 16 ans à choyer avait été mis en morceaux par des animaux sauvages et dispersé dans une forêt humide, malgré tous les bons petits plats qu'elle lui avait cuisinés. Alors pourquoi se donner tant de mal? Néanmoins, Laurel finit par admettre qu'elle ne cuisinait pas seulement pour sa famille, mais aussi pour elle-même, parce qu'elle aimait ça. À 19h, elle passe une chemise noire sans manches, une jupe rouge, et puisqu'elle ne sortira pas et n'aura pas réellement à marcher avec, une paire d'escarpins rouges à talons aiguilles. À 19h15, son téléphone vibre. Catastrophe. SJ me laisse tomber. Je viens avec Poppy ou on reporte. C'est toi qui vois. Elle inspire profondément. Cette situation la contrarie. Elle s'est donné tant de mal, a passé des heures à s'épiler et à même changer les draps. Mais ce sentiment la quitte rapidement. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas passer une soirée avec Floyd et sa fille et saisir l'opportunité de la connaître un peu mieux? De toute façon, il fallait les changer, les draps. Elle sourit et lui répond. « Viens avec Poppy. Je serai ravie de vous accueillir tous les deux. » Floyd lui répond immédiatement. « Fantastique. Merci beaucoup. Juste une petite chose. Poppy est obsédée par les photos des gens. Si tu en as, Delly, il vaut peut-être mieux les cacher. Je ne lui ai pas parlé d'elle, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'espère que ça ne te dérange pas. » Smiley.